France Culture. Question du soir, Quentin l'a fait.
Il y a 50 ans, le 24 janvier 1975, merci Nicolas Ballu pour le journal, il y a eu un petit bug, mais je vais reprendre mon introduction comme si de rien n'était. Il y a 50 ans, le 24 janvier 1975, s'est joué entre les murs de l'Opéra de Cologne en Allemagne, l'un des concerts les plus importants et fondateurs de l'histoire de la musique, le Köln Concert de Keith Jarrett, une improvisation jazz du Nord 7 qui deviendra le disque le plus vendu dans l'histoire du jazz. Et pourtant, le génie improvisateur n'existe pas et l'improvisation ne s'improvise pas. 50 ans plus tard, comment cet acte de création est-il donc devenu la référence en matière d'improvisation? Pourquoi un demi-siècle après ce concert déclenche-t-il encore autant de passion et de légende? Et en quoi Keith Jarrett a-t-il écrit une nouvelle grammaire musicale? Pour en parler avec nous et à distance, Denis Laborde, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous dirigez la chaire d'anthropologie de la musique et vous êtes par ailleurs spécialiste de l'improvisation en musique. Merci beaucoup d'être ce soir dans Question du soir.
We had the wrong piano rented. We tried to get the right piano.
Nous sommes retrouvés avec le mauvais piano. Nous avons essayé d'obtenir le bon, mais le camion n'était plus disponible. De toute façon, le piano était trop grand pour être transporté. J'ai dû donc trouver une autre solution, et à ce stade, j'étais déjà très agacé. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'ai mangé un très mauvais plat italien dans un restaurant. Et nous avons fini par dire aux ingénieurs et techniciens qu'ils pouvaient rentrer chez eux. Car rien ne se passait comme prévu, à part le fait que la salle affichait complet. Puis, au dernier moment, on a changé d'avis. On s'est dit, tant pis, ils sont déjà là, tout est installé. Faisons simplement un enregistrement pour nous. On essaie toujours de faire du mieux possible. Mais quand les problèmes s'enchaînent sans qu'on puisse rien y faire, on finit par oublier pourquoi on est là, jusqu'au moment où il faut jouer. Et c'est là l'un des secrets de l'improvisation.
Denis Laborde, il faut commencer par expliquer que ce concert historique, mythique, hein, on le disait, pour le jazz et pour l'improvisation, a failli ne pas avoir lieu. Expliquez-nous pourquoi.
Keith Jarrett a déjà tout expliqué. C'était absolument un concours de circonstances, c'est quand même très fâcheux. Keith Jarrett est en tournée pour 6 concerts en Europe. Il est conduit par le manager de la tournée, Manfred Eicher. Et rien, effectivement, ne se passe comme prévu. Alors, il faut peut-être présenter les 3 protagonistes de cette soirée mémorable. Il y a Keith Jarrett lui-même, évidemment. Il a 29 ans à ce moment-là. Il est très connu en Allemagne. Peut-être qu'on peut dire que Cologne, quand même, c'est une ville très très importante culturellement. Il y a une radio VDR qui joue un rôle très important avec Radio France, notamment dans le domaine des musiques du monde, dans le domaine du rock expérimental. Il y a Kraftwerk qui est pas loin à Düsseldorf, et il y a Stockhausen qui travaille dans les studios de la VDR. Et puis pas loin, il y a Pina Bausch avec son Tanztheater de Wuppertal. Donc c'est une ville quand même, il y a une grosse émulation, un théâtre, une philharmonie, etc. Donc c'est pas un endroit anodin. Et donc c'est là que Keith Jarrett débarque, on peut le dire comme ça, avec Manfred Eicher dans leur petite voiture. Ils arrivent de Lausanne la veille, le jeudi 23 janvier. On est en janvier, il fait froid. En Allemagne, et ils ont joué la veille, ce que Keith Jarrett ne fait jamais, et il laisse toujours une journée pour le voyage, mais là ça ne pouvait pas fonctionner comme ça, donc ils arrivent en début d'après-midi à Cologne, et là ils rencontrent donc alors Manfred Eicher. Pour celles ou ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le producteur qui a une place canonique dans le monde du jazz, qui est le fondateur du label ECM, donc c'est lui qui a lancé énormément de jazzman du monde entier, basé en Allemagne, mais aussi toute la musique répétitive américaine, Steve Reich, etc. Donc c'est quelqu'un de très important. Et ils sont arrivés tous les deux en voiture et ils rencontrent Vera Brandes, qui est encore plus jeune qu'eux, puisqu'elle a 18 ans. Et c'est elle qui fait le lien à 18 ans avec toute la production de l'opéra. Et donc c'est elle qui les accueille. Et là, au début d'après-midi, ils découvrent la catastrophe, c'est que l'équipe technique s'est trompée de piano. Au lieu de mettre le beau Bösendorfer qui est dans les sous-sols de l'opéra et qui est sorti dans les grandes occasions, pour les beaux concerts, qui est le piano sur lequel ils voulaient jouer, l'équipe technique a préparé l'autre Bösendorfer, celui qui est dans la salle de danse et qui sert pour les répétitions de danse et qui est donc pas accordé, qui est exposé à tous les vents, à tous les courants d'air et qui, dont certaines touches ne fonctionnent pas, qui en sont très, très métalliques. Et Steve Reich, dans un premier moment, refuse de jouer. Et donc, on annule, comme il l'a expliqué lui-même.
Il faut nous expliquer pourquoi, malgré tout cela, malgré l'ensemble de ces contraintes, hein, l'enregistrement de ce concert va devenir l'album de jazz et piano solo le plus vendu de tous les temps. Il faut nous dire concrètement ce qui s'est passé sur scène ce soir-là.
Ah ben, c'est une improvisation intégrale, du coup, pour le coup, parce que c'est Vera Brandes qui alors que j'arrête, part dans la voiture, et elle va le chercher et lui demande, le supplie d'essayer quand même, de voir quand même. Il y a encore un technicien qui est là, elle va lui demander s'il veut pas rester quand même. Le technicien accepte. Sans qu'on lui demande, il fait l'enregistrement. Mais alors, il avait vraiment avec deux micros, enfin, d'une manière très artisanale, on va dire. On pourrait dire improvisé, là aussi. Il va manger, mais il mange d'une manière exécrable. Il est dans une fatigue excessive. Il a un mauvais piano et il est 23 heures au milieu de la nuit. Donc, c'est un concert de la nuit qu'avait voulu Vera Brandes. Et là, il y a 1400 spectateurs. Donc, c'est Ausverkauft. La salle est pleine. Voilà. Entièrement réservé. Et là, c'est une sorte de miracle qui se produit.
On va écouter, si vous en êtes d'accord, hein, on va écouter Denis Laborde, l'introduction, les premières notes, justement, de ce concert, de cette improvisation, et on en reparle ensemble par la suite. Racontez-nous, Denis Laborde, pourquoi les premières notes de ce morceau, de ce concert, de cette improvisation, les quatre premières notes en l'occurrence, déchaînent les passions et provoquent encore des débats insensés, même dans l'équipe de Questions du Soir d'ailleurs.
Quatre notes, certains disent cinq, donc j'imagine que le débat est venu là, mais parce qu'il y a une ghost note qui s'est infiltrée dans cette séquence. Il y a sol, ré, do, sol, la, ce qui fait cinq. Mais le deuxième sol, c'est vraiment une note fantôme. On est victime de la transcription. Enfin, c'est mon analyse. On est victime de la transcription qu'en ont fait les musicologues japonais qui ont retranscrit ce concert en partition. Et donc, quatre notes qui sont en réalité les quatre notes de la sonnerie de l'opéra de Cologne. Donc, les sol, ré, do, la, ça sonne. Les gens se mettent en place. Arrive en place, un grand silence, une salle pleine, un grand piano noir mal fichu, pas de partition, rien. Et là, il se met au piano et il commence en prenant un processus d'anadiplose, c'est-à-dire il reprend la sonnerie de l'opéra de Cologne et là, le public, c'est gagné, quoi. Le concert est gagné.
Et vous dites, vous écrivez même que ce qui fait la force sans doute de ce moment de création, de ce concert tout entier hein, d'une heure sept, je le rappelle, c'est qu'on a le sentiment qu'il nous rend témoin, hein, Keith Jarrett, de la fabrique de la musique en train de se faire. Expliquez-nous pourquoi.
Ah mais absolument, parce qu'il a rien. Il arrive, il est complètement dénudé, si je peux dire. Il arrive juste avec sa concentration, sa présence au piano, qui était une présence quand même très très particulière, d'une très très forte intensité, et un silence absolu. Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on peut écouter le silence dans l'extrait que vous avez passé, parce qu'on oublie presque que c'est du live, tellement la salle est silencieuse et le public écoute. Et là, il avait toutes les conditions pour réussir un concert d'exception. Alors, il commence là-dedans, il cherche un petit peu comme les improvisateurs hindous quand ils font des ragas, ils cherchent un petit peu au début, voilà. Et là, ils cherchent ses appuis. Et au bout de la cinquième minute, ils commencent à taper du pied sur la pédale pour scander le rythme. Et à la septième minute, là, il enchaîne les accords avec une pédale. Et là, il est parti, quoi. Dans 1h07, avez-vous dit, d'improvisation.
Je voudrais qu'on entende Keith Jarrett de nouveau. Il était interrogé encore une fois par ZTF. C'était en 2007. Et il parle, il évoque son rapport difficile. Vous allez l'entendre à l'improvisation.
C'est déjà assez difficile d'être un musicien de renommée, mais être un improvisateur solo, jouer un concert en partant de rien, c'est comme construire une voiture sans jamais la tester. Honnêtement, je ne conseillerais à aucun pianiste de faire cela. On me demande souvent, pourquoi personne d'autre ne fait ça? Je me contente de sourire. Je suis presque soulagé pour eux s'ils ne tentent pas l'expérience. Vouloir sans cesse repartir de zéro, c'est épuisant. C'est dangereux, car en cas d'échec, on a l'impression d'avoir échoué en tant qu'être humain.
Vous êtes d'accord, Denis Laborde, avec cette idée selon laquelle l'improvisation ne s'improvise pas? L'improvisation, c'est d'abord un art de la mémoire, un art du jeu et un art de l'écoute.
Absolument. L'improvisation, c'est un art de la mémoire. C'est pas du tout une simple virtuosité computationnelle, on peut dire, ou bien un jeu de hasard. L'improvisation, c'est vraiment, je dirais, un jeu d'adresse. C'est un jeu qui se prépare, se mettre complètement en position de risque absolu, comme il le fait dans ses concerts solo, qui est quand même une forme très très singulière. C'est celui qui a réinvesti cette forme à partir de rien. Et il le dit lui-même, quand j'arrive au piano, je ne sais pas ce que je vais faire. Je confie le début à mes mains. Voilà. Donc c'est aussi tout un entraînement, une pratique du corps, des skills, des habiletés qu'il a incorporées, qu'il a préparées, qu'il a énormément travaillé et qu'il met au service d'une improvisation sans savoir que l'improvisation qui va sortir sera cette improvisation-là, évidemment.
Sur quoi...
Ça, c'est tout le jeu sur l'incertitude, pardon.
Non, c'est moi, on est à distance et je vous prie de m'excuser. Sur quoi s'appuie celle ou celui qui improvise? Il faut bien un scénario, une base. Vous parliez d'un point de départ tout à l'heure, la sonnerie justement de la salle de concert. Sur quoi s'est appuyé Keith Jarrett au-delà de cette sonnerie lors de ce concert mémorable, je le rappelle, donné il y a 50 ans?
Il y a quatre séquences dans son improvisation, mais je ne suis pas certain que tout cela ait été prémédité. Je pense pas qu'il avait planifié l'engagement de ces quatre actions et qu'il se conduisait un petit peu comme les improvisateurs à l'orgue, par exemple, font ça beaucoup plus, planifient davantage les improvisations dans lesquelles ils se lancent. Là, je pense pas du tout que c'était absolument planifié. Je pense qu'il y a la mémoire et l'instant, ce jeu entre la mémoire du corps, qui est la mémoire du corps, de l'en action d'une certaine manière, et puis l'engagement du corps dans l'action. Et je pense que ses mains, sa pensée de l'improvisation est informée aussi par ce qui se passe sur le moment. Donc je pense qu'il s'appuie sur sa compétence, il s'appuie sur le silence que lui renvoie le public, et sur cette connivence qui le conduit quelque part, et puis sur cette la manière qu'il a d'apprivoiser le piano d'une certaine manière, ce piano qu'il détestait au début du concert et qui va devenir là son meilleur allié malgré son très métallique dans les aigus.
Vous avez, Denis Laborde, d'une manière que j'ai trouvée extrêmement forte, de distinguer l'improvisation de la composition. Vous dites, vous écrivez plutôt que l'improvisation, c'est le mariage entre le temps de la création et celui de l'exécution. Expliquez-nous là aussi ce que vous souhaitez dire.
C'est-à-dire que dans l'improvisation, les deux moments ne sont pas distincts. Donc, dans l'improvisation, dans la composition, on compose à l'écrit. Et le moment de la, c'est ce qu'il expliquait d'ailleurs lui-même, qu'il s'arrête. Dans la composition, on écrit et puis après on interprète. Éventuellement, on revient sur ce qu'on a composé. À l'improvisation, c'est pas possible. Donc la prise de risque, elle est absolument totale. Et donc on est en temps réel d'une certaine manière. Et là, c'est le corps qui guide tout autant que la cognition. Voilà, on a les mains sont, il le dit lui-même, les mains sont moins programmatiques que mon cerveau, donc je me laisse guider aussi par les mains. Et d'ailleurs, il y a une fameuse anecdote, mais je vais faire court au concert de Tokyo qui est resté célèbre, qu'il à un moment donné la main, il ne maîtrise plus du tout sa main gauche et il la laisse jouer d'elle-même d'une certaine manière. Donc ce sont des instants comme ça, très très courts, qui témoignent. Et d'ailleurs, lui-même avait une présence au piano, il se levait, il allait jouer dans les cordes, il s'asseyait, il tapait du pied, jouait debout. Enfin bon, c'est cette force de l'engagement corporel dans la situation qui fait qu'il donne tout ce qu'il peut dans cet instant.
Comme si des parties de son corps avaient pris vie. Je voudrais qu'on entende un autre extrait de ce Köln Concert. C'est a priori le passage préféré de Keith Jarrett lui-même. C'est aussi, Denis Laborde, je crois, votre passage favori également.
Ah oui. Oui, c'est très curieux parce qu'il n'y a pas vraiment une esthétique jazz, on pourrait dire, là, dans un passage comme celui-là. C'est vraiment un enchaînement de deux accords, accord de sol, accord de la, et voilà, une pédale comme ça, et dessus, il brode une mélodie très simple. Mais il y a une intensité, une densité dans un passage de cette grande simplicité qui me touche énormément.
On a parfois cette fausse idée selon laquelle le jazz aurait le monopole de l'improvisation. Alors quand on fait un peu d'histoire de la musique, cela est tout à fait faux. Expliquez-nous comment la musique classique elle-même s'était appropriée l'improvisation.
Oh là là, mais l'improvisation, elle appartient au langage musical lui-même, donc il y a beaucoup plus de pièces musicales improvisées que de pièces musicales écrites. Donc forcément, l'improvisation, elle fait partie du jeu musical. Et pour mieux comprendre ce qui se joue à ce niveau-là, peut-être qu'il faut distinguer entre, d'un côté, l'improvisation comme façon de créer la musique, et puis l'improvisation comme genre. Et là, la musique classique s'est appropriée, enfin, elle n'a cessé d'improviser, mais elle s'est appropriée l'improvisation comme genre, effectivement, grosso modo, on pourrait dire, à la charnière du XVIe et XVIIe siècle, où, avec le continuo, avec les pratiques de l'ornementation, les diminutions, la musique baroque va bientôt devenir une musique très ornée et improvisée pour partie. Voilà. Et alors après, effectivement, on peut faire toute une histoire de la musique savante occidentale avec ce principe-là de l'improvisation, et on retrouverait les cousins de Keith Jarrett, d'une certaine manière, que furent Franz Liszt ou Chopin dans les salons, qui improvisaient dans les salons des mazurkas ou des ballades. Voilà. Donc c'est une pratique, effectivement, j'ai parlé de l'orgue tout à l'heure, effectivement, aussi. Voilà, donc c'est pas du tout une pratique qui est propre au jazz, mais c'est une manière d'être en musique, je dirais ça.
La voix de Christian Béthune, il est philosophe, il s'exprimait le 9 février 2011 sur l'antenne de France Culture et dans l'émission Les Chemins de la Philosophie.
L'improvisation a surgi comme problème justement parce qu'elle mettait en question quelque chose de sacro-saint qui s'est péniblement élaboré en Occident, c'est la notion d'œuvre d'art. Et effectivement, l'improvisation tend à substituer la performance à l'œuvre. Et on comprend qu'il y ait des réticences à admettre ce, je dirais même pas ce dépassement de l'œuvre d'art, mais cette ignorance, d'une certaine manière, de ce qui constitue la stratégie de constitution des œuvres.
Denis Laborde, qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette analyse proposée par Christian Béthune ?
Elle est très orientée d'un point de vue de la musicologie classique, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, elle se justifie tout à fait. Mais après, la question de savoir, la question éthique de savoir ce qu'est, ce qui appartient, ce qui n'appartient pas à l'art, à l'œuvre d'art, est une question, me semble-t-il, qui est assez dépassée. Maintenant, je crois qu'on est beaucoup plus engagé dans le faire, on va dire, dans l'action.
Au-delà, pourquoi est-ce que vous diriez vous-même que ce concert donné il y a 50 ans est un moment fondateur dans l'histoire de la musique ? Est-ce que c'est l'événement en tant que tel qui a stupéfié les personnes qui s'y trouvaient ? Ou alors cela a eu une influence bien plus large, bien plus puissante également dans l'histoire de la musique et du jazz en particulier ?
Ah oui, je crois que c'est ce qui fait éclore complètement Keith Jarrett. Penser que aujourd'hui on approche les 4 millions d'albums vendus de ce concert qui aurait dû ne pas être enregistré. Donc, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel et que ce que fait Keith Jarrett ce soir-là nous parle. Il y a vraiment un transfert d'humanité très fort, je trouve, que chacun qui écoute ce concert peut éprouver. Donc, je crois qu'il y a le moment absolument exceptionnel sur le moment. Il y a cette espèce d'écologie d'ensemble de relations constituées par le pianiste, le piano, le silence et le public présent en silence. Cette écologie-là qui fait émerger un moment très spécifique. Et puis, il y a le mythe qui a été... qui part de ce moment fondateur et qui se nourrit de ses propres exégèses.
Keith Jarrett va fêter cette année ses 80 ans. Il ne joue plus depuis 2020. Est-ce que beaucoup de musiciens se revendiquent encore de son influence, de son talent également ?
Alors, non, je crois qu'il est, unique. Chacun le comprend. Il y a juste John Roney qui est un pianiste québécois qui, à Montréal, a essayé a redonné le Köln Concert. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on ne dit pas le concert de Cologne, on dit le Köln Concert. Donc, c'est vraiment qu'il est entré comme tel dans nos mythes. Voilà. Donc, John Roney a rejoué le concert. Mais évidemment, c'était pas Steve. C'était pas Keith Jarrett. Donc, c'était pas exactement la même chose. On peut pas dire non qu'il y ait de successeurs. Enfin, il y a sans doute des successeurs, mais il n'y a pas d'héritier. Voilà.
Alors, on finit tout naturellement cet entretien avec un autre extrait du Köln Concert.
Thank you.
Et mes revenus, Denis Laborde, l'image que vous donniez tout à l'heure, celle de la main de Keith Jarrett qui vit seule sur le piano et qui compose elle-même en direct son propre morceau. Merci en tout cas d'être venu ce soir à Question du Soir depuis l'Allemagne. Merci aux équipes techniques. Je rappelle que vous êtes anthropologue, directeur de recherche au CNRS, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et vous êtes spécialiste de l'improvisation en musique. Merci et bonne soirée.